titre droit et psychiatrie. J'aime bien la conjonction « et » qui unit les deux éléments de ce titre, parce qu'elle nous permet tout de même de nous interroger à la fois sur ce que le droit dit à la psychiatrie, mais peut-être aussi, et sans doute l'a-t-on moins fait aujourd'hui, sur ce que la psychiatrie dit au droit. Et donc voilà mon plan binaire parfait pour le juriste, mais que je m'empresserai de contester, même si je suis ce plan. Et je vais le prendre en sens inverse, d'abord ce que la psychiatrie me paraît, durant cette journée, avoir pu dire au droit. C'est vrai que le couple est assez improbable si le droit s'occupe, pour dire les choses très très simplement, de la norme, la psychiatrie s'occupe de la normale. Et réunir les deux, ma foi, n'est guère une évidence. Mais je crois que c'est là que c'est intéressant pour le droit. Alors, il y a évidemment un risque, Mathias Couturier l'a dit notamment à la fin de son intervention, de voir des formes de psychologisation du droit, c'est très réel. Ça peut aussi, et je préfère le voir de cette façon-là positive, être une richesse pour le droit afin de le forcer, comme le font d'ailleurs d'autres sciences humaines, à sortir de notre logique binaire dans laquelle nous sommes en permanence en droit, le normal, l'anormal, le légal, l'illégal, et on en a vu d'autres logiques binaires aujourd'hui, le public, le privé, les biens, les personnes, et on a vu que partout, cette logique binaire était interrogée en nous disant il y a des zones grises, il y a des intermédiaires où il faut pouvoir aussi gérer la condition de la personne malade du point de vue de sa santé mentale. Et ça, je crois que c'est très intéressant de façon générale pour le droit que ce questionnement au-delà de notre logique binaire. Et je trouve là quelque chose qui est très similaire avec une interrogation que nous avons avec Marie-Joëlle d'ailleurs sur d'autres questions, la logique entre le national et l'étranger, elle est de la même façon questionnée, et beaucoup d'interrogations qui se sont posées aujourd'hui sur le rôle du juge, sur les concepts, sur qui fait quoi, sont le même type de questions que l'on se pose en droit des étrangers, notamment pour les praticiens avocats. Donc, deuxième partie, interrogeons alors le droit par rapport à la psychiatrie, droit et psychiatrie. On a évoqué, c'est Jean-Manuel Laralde qui l'a fait, l'esprit des lois de Montesquieu, et je me dis, au fond, invoquons plutôt l'esprit des droits. Quel est l'esprit des droits lorsqu'on confronte le droit et la psychiatrie? Et là, je crois que le professeur Laralde l'a bien montré dans son exposé d'analyse des influences sur vos deux nouvelles législations françaises, la place des droits fondamentaux, des droits de l'homme, est prépondérante, que ce soit par le biais national de cours constitutionnels, que ce soit par le biais européen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on arrivera aussi à un moment à l'influence du droit de l'Union européenne qu'on a nullement évoqué aujourd'hui. Mais sachez par exemple, vous le savez peut-être, que 2014 sera l'année européenne de la santé mentale au sein de l'Union européenne, après que 2013 ait été l'année de la citoyenneté. Alors c'est dans cette idée de santé mentale, bien-être du citoyen, ce seront d'autres perspectives, mais certaines questions qui ont été abordées ici seront très certainement abordées dans de nombreux cénacles européens. Et il y a déjà aujourd'hui du droit de l'Union européenne en matière de soins transfrontaliers qui concerne les soins de santé et qui complexifierait encore les questions que nous nous sommes posées ici. Mais centrons-nous plutôt sur les droits fondamentaux, les droits de l'homme. Et là, ma foi, pour rechercher l'esprit de ces droits-là, je ne dois pas aller très loin, et je n'ai guère été étonné que M. Malo pour l'UNAFAM annonce une réunion à la Bastille l'an prochain, parce que, ma foi, sans doute que la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité est l'esprit des droits que nous devons interroger. Et je prends les trois volets de cette trilogie. Liberté d'abord, il en a été beaucoup question. C'est bien entendu la liberté d'aller et de venir, ne pas faire l'objet d'une privation de liberté, et en matière de soins de santé mentale, c'est un questionnement important. Je reviens un instant sur la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article qui concerne la privation de liberté dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 5. C'est intéressant parce que, et c'est le seul texte au niveau international qui fait cela, la Convention européenne des droits de l'homme énumère de façon limitative les cas dans lesquels il peut y avoir privation de liberté. Hors de ces cas, pas de privation possible. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'on constate ? Il y en a 6. Il y a 3 cas tout à fait classiques qui sont après condamnation, détention préventive, donc dans le cadre pénal. Et puis, il y a 3 cas qui sont plus complexes, qui sont dans des cas dans lesquels il y a privation de liberté, à la fois pour la protection de la société, comme en matière pénale, mais aussi et parfois surtout pour la protection de la personne elle-même. C'est le mineur, le malade et l'étranger. Et vous voyez de nouveau des questionnements proches entre ces 3 catégories de personnes. Alors, s'agissant du malade au sens large, je reprends les termes, vous verrez qu'ils datent. Ils sont tout de même de 1950. C'est la possibilité de priver une personne de sa liberté s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, nous y sommes, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. On s'interrogera sur la place du vagabond ici, mais ça pose de belles questions au regard des personnes sans domicile fixe également. Et la Belgique, d'ailleurs, parce qu'on a dit qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence concernant la France, la Belgique a eu à une certaine époque beaucoup de jurisprudence concernant les sans domicile fixe et il y en a encore concernant les aliénés aussi. Alors, c'est vrai que les 3 critères qui permettent la privation de liberté de l'aliéné ont été clairement fixés par la jurisprudence et rappelés dans de nombreux arrêts qu'on a cités. La preuve du caractère grave, l'ampleur et de la persistance de la maladie mentale. Et la preuve, ce sont les débats qu'on a eus autour de ce difficile certificat médical circonstancié. Mais à cela, ces 3 critères, il faut ajouter que la jurisprudence a aussi souligné la nécessaire adéquation entre l'objectif poursuivi par la privation de liberté et les modalités de cette privation de liberté. La Belgique, notamment, a été condamnée pour cela dans un célèbre arrêt Hartz en 1998 pour ce qui est des annexes psychiatriques de prison pour des aliénés qui ont été condamnés. Et j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que chaque fois, effectivement, la Cour revient sur l'idée que la privation de liberté est l'exception et quand elle a lieu, elle doit être entourée de modalités qui ont toujours en vue l'objectif pour lequel la privation de liberté est faite. Alors la difficulté, c'est qui décide de cette privation de liberté et l'exposé de Marie-Joëlle Rodor et les interventions du juge Anouet nous ont laissé entendre qu'il fallait s'orienter vers la compétence d'un seul juge. Il est vrai, je crois, que l'époque où 2 juges seraient compétents pour cette question, là, pour le coup, le droit fait lui-même preuve de schizophrénie et que probablement que rassembler au sein d'un seul juge, et j'aurais tendance pour ma part à privilégier aussi le juge judiciaire, mais ça c'est mon influence belge parce que nous n'avons pas de juge administratif en Belgique et donc nous n'avons pas ce problème-là. Alors le juge qui serait compétent, fût-il judiciaire, doit-il être spécialisé ou non ? On a de plus en plus de juridictions spécialisées, de la famille, des enfants, faut-il un juge du fou ? Ma tendance est de considérer effectivement que non, qu'il faut sauvegarder la généralité et le caractère généraliste du juge. Autre chose est qu'il soit entouré et qu'il y ait effectivement d'autres personnes qui interviennent, pas seulement au titre d'expertise, mais qui interviennent. On a parlé de triangulation et souvent c'est plus que triangulation, c'est carré ou même davantage qui interviennent pour entourer le juge dans sa décision. La liberté, c'est aussi non seulement ne pas être privé de sa liberté, mais s'interroger si l'aliéné a la liberté de consentir. Et là, on glisse déjà vers l'égalité. Est-il mon égal ? Émet-il un consentement comme le mien ? à un moment donné, dans la table ronde de cet avant-midi, Madame Chastan a dit, au fond, c'est quoi ce consentement qu'on demande à quelqu'un qui, a priori, ne peut pas consentir ou n'est pas capable de consentir? Et donc, c'est tout ce critère du consentement libre et éclairé qu'on a évoqué non seulement en matière civile, mais en matière pénale, et pour la privation de liberté également. Et je crois que nous avons appris une chose, si nous nous plaçons du point de vue de l'égalité. Cette chose, nous la connaissons depuis Aristote. L'égalité, hein, ce n'est pas simplement traiter de façon égale des situations égales, c'est également traiter de façon différente des situations différentes. C'est très à la mode et pourtant ce n'est pas neuf du tout. Et ici, on doit admettre effectivement que le consentement d'une personne souffrant d'une maladie mentale n'est certainement pas le même que le consentement d'une autre personne. Et on peut très certainement jouer sur les deux qualificatifs du consentement en droit libre et éclairé. Sans doute est-il moins libre, il doit être d'autant plus éclairé. Et je reviens sur cette présence importante de l'avocat dont on a parlé. Il va être un des acteurs qui va permettre d'éclairer davantage, en collaboration avec le soignant, l'aliéné qui doit prendre des décisions au regard de son consentement. Je crois donc que la notion de consentement, comme d'autres, doivent être adaptées à cette situation de vulnérabilité. Troisième volet, liberté, égalité, fraternité. Mais la fraternité, c'est la protection. C'est parce que nous avons encore ces quelques éléments de fraternité, on ne parle plus de fraternité aujourd'hui, ce n'est plus à la mode, mettons solidarité, que nous estimons que la personne doit être protégée. Présentant la loi ce matin, Sophie Théron a très vite montré que la protection était équivoque. Et je crois qu'elle est équivoque effectivement parce qu'il y a une ambiguïté fondamentale dès le départ. C'est que la protection est non seulement la protection de la personne, mais aussi la société qui essaye de se protéger contre la personne. Et cette ambiguïté va être la source de tout l'équivoque dans la mise en œuvre du droit de protection. On a évoqué la protection de la personne au civil, quant à ses biens, quant à la personne elle-même. C'était l'intervention de Gilles Raoul Cormeil. On a évoqué la protection pénale, et c'est Mathias Couturier qui a fait cette présentation, avec l'incidence, je crois, de la vulnérabilité, en constatant très clairement, vous avez évoqué le code belge, que cette vulnérabilité ne doit pas avoir une incidence automatique sur la place que cela peut prendre par rapport à la protection et à la responsabilité de la personne. Mais donc, en contrepoint de la protection de la personne, il y a la responsabilité aussi de la personne, et là, c'est la société qui se protège, et entre les deux, entre la personne malade et la société, il y a l'établissement, l'institution et sa propre responsabilité qui peut être engagée tant à l'égard de la personne qu'à l'égard de la société également. Tous ces exposés sur la responsabilité, qu'elle soit pénale faite par le professeur Salvage ou la responsabilité de l'établissement de soins, le dernier exposé de M. Péchion, nous ont montré également la difficulté de l'interprétation de cela. Alors, au fond, je me dis, pour mettre en œuvre cette trilogie liberté, égalité, fraternité, j'ai retenu aujourd'hui de tous vos exposés qu'il y a une sorte de dialogue institutionnalisé qui doit se faire. Ce n'est plus uniquement deux acteurs, soit le soignant et le soigné, soit le juge et le justiciable qui, chacun de leur côté, agissent et prennent leurs décisions, mais c'est un dialogue qui doit être institutionnalisé parce qu'il faut un cadre, effectivement, et qui fait jouer ensemble tous ces acteurs, qui permet sans doute petit à petit d'avancer dans cette trilogie et de mettre au fond, au-dessus de cette trilogie liberté, égalité, fraternité, une notion que vous avez évoquée, M. Malot, celle de dignité humaine. Alors, les juristes se méfient de cette notion de dignité humaine parce qu'ils estiment effectivement que ça fait partie de ces concepts à géométrie variable, mais la notion de plus en plus entre dans le droit. Elle n'était pas tellement habituelle chez nous, elle a été intégrée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme article premier, à la demande expresse de l'Allemagne qui avait cette notion dans sa constitution. L'Allemagne a dans sa constitution que la dignité humaine est Elle ne dit même pas inviolable comme la charte, elle dit intouchable, untasbar, on ne peut pas toucher à la dignité humaine. C'est évidemment une constitution qui a été écrite après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, et ce n'est pas sans lien avec notre sujet, puisque parmi ces horreurs, il y avait également les expériences psychiatriques qui avaient été faites. Et je crois qu'effectivement, mettre au cœur de ce dialogue institutionnalisé la dignité humaine est une façon de pouvoir réconcilier le couple psychiatrie et droit, si l'on accepte que le sujet est une personne malade, ce qui veut dire d'abord une personne, ensuite une malade, c'est-à-dire d'abord un titulaire de droit, ensuite quelqu'un qui doit également faire l'objet de soins. À ce moment-là, il me semble, très modestement, hein, sans que ce soit la solution qui va permettre de supprimer toutes les souffrances, mais au moins de permettre de vivre avec peut-être un peu moins de souffrances, que droit et psychiatrie peuvent se concilier dans une action commune. Merci de votre attention.